France Culture.
Je parie qu'en Grande-Bretagne, chaque maison est une maison du crime, si on remonte assez loin. Nina Allan, mais pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, qui recevra ce soir à l'occasion de la sortie aux éditions Tristram de son premier roman noir, Les bons voisins, la romancière et novelliste anglaise Nina Allan, auteure de plusieurs romans ou nouvelles fantastiques ou science-fictives, désormais classiques, telles La Fracture, Spin ou Complication. Nina Allan nous attire dans l'île de Bute, près de Glasgow, pour une enquête criminelle haute intensité. Chronique en second temps d'émission, signée Hubert Prolongeau. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Jean qui réalise ce soir un de ses rêves, rencontrer, interviewer, aller à la découverte de l'univers de l'extraordinaire Nina Allan, qu'on peut lire depuis des années grâce à Tristram et à son traducteur Bernard Sigaud. Alors on avait connu effectivement, je me répète, le fantastique, la science-fiction, l'insolite, bizarre et très mauvais genre avec le créateur de Poupée, et voilà que Nina Allan, eh bien, envahit à sa façon l'univers du roman noir, et c'est une réussite. J'en serai ce soir avec Hubert Prolongeau, bonsoir.
Bonsoir François.
Hubert Prolongeau qui bientôt alors nous attirera non pas dans une île écossaise près de Glasgow,
non,
mais
chez
les Mormons.
Voilà, dans les grandes plaines du Far West dans les années 1830, avec un roman western qui raconte les débuts fort romanesque et fort trépidant et assez violent de l'Église mormone.
Très bien, ben on sera attentif. Avant les apôtres des derniers temps, on va s'intéresser à la vie criminelle, folklorique, fantastique de l'île de Bute avec Nina Allan. Alors Nina Allan, il faudrait nous en dire un peu plus. Moi, j'ai esquissé comme ça des coups de trompe, mais dites-nous, Hubert, Nina Allan.
Ça fait quelques années déjà qu'effectivement Nina Allan est apparue dans le ciel, pas toujours assez encombrée, des bizarreries littéraires. Elle est née en 1966, elle a grandi à Londres et dans le Sussex. Elle a fait des études assez pointues, elle a étudié le russe et la littérature russe à Oxford, puis a fait une thèse sur Vladimir Nabokov, oui, qu'on évoquera sans doute avec elle. Ensuite, elle a eu un emploi moins intellectuels, de disquaire, puis de libraire, d'acheteuse, et s'est consacrée enfin pleinement à l'écriture. Elle a commencé par des nouvelles déjà assez étranges et régulièrement publiées. Un atelier d'écriture, elle a rencontré le grand écrivain anglais de science-fiction Christopher Priest, qui est malheureusement mort récemment, et avec qui elle a vécu jusqu'à cette date très récente. Son premier roman, La Course, a été publié en France, comme les suivants, par Tristram, dont il faut saluer le travail
de découvreur, et la persistance.
Assez, tout à fait, assez remarquable. Nina Allan étant une de leurs plus grandes réussites au niveau commercial et de réputation. Et elle s'est imposée d'emblée avec un univers mêlé de plein de choses, de science-fiction, mais sans l'être directement, de psychologie, de polar. Ces livres sont des puzzles auxquels il manque toujours quelques morceaux, des embrouillamini d'intrigues bizarres qui laissent un vrai sentiment de malaise. On a eu Spin, on a eu le créateur de Poupée, Complication, La Fracture, celui qui a sans doute eu le plus d'écho. Et aujourd'hui, elle nous offre Les bons voisins, donc un livre qui est plus proche du polar pur, mais dans lequel elle ne peut s'empêcher de distiller quelques étrangetés écossaises, puisqu'elle vit en Écosse, à l'île de Bute, qui est l'endroit où se déroule ce roman.
Absolument. Alors, on va voir comment Nina Allan fait sienne les polars d'investigation criminelle dans une île qui pourrait être traitée d'une façon assez, je dirais, tranquille. Et là, au contraire, elle pousse au maximum toutes les sources possibles d'inspiration, le fantastique local, le folklore horrifique, le légendaire, et puis même certains destins de peintres. Enfin, je n'en dis pas plus. Les propos de Nina Allan sont traduits par Pascal Fougère. On l'écoute. Bonjour Nina Allan.
Bonjour.
Merci d'accorder cet entretien à Mauvais Genre sur France Culture à l'occasion de la sortie aux éditions Tristram de votre avant-dernier roman Les bons voisins, et qui est votre dernier roman pour nous, donc qui vient de paraître, il y a de cela maintenant un mois et demi. Alors, première question, Nina Allan, on parle avec ce roman, Les bons voisins, de votre entrée dans l'univers du roman noir, c'est-à-dire du roman policier, du roman de détection, d'enquête. Qu'en pensez-vous ? Et puis alors, quel est votre rapport, vous qui avez travaillé sur toutes les vibrations et les nuances du fantastique, de la science-fiction, du merveilleux, de l'insolite, quel est pour votre rapport avec le roman noir et le roman de détection, Nina Allan ?
I've always felt a great rapport with les mauvais genres.
J'ai toujours senti une relation très forte avec le mauvais genre. Depuis mon enfance, j'étais intéressée par la science-fiction, les romans de H.G. Wells, de John Wyndon, qui sont des romans anglais classiques concernant l'anticipation et l'étrange. J'adorais aussi les romans policiers. C'était une manière, en fait, de travailler sur un problème ou sur une question qui vraiment faisait vibrer mon imagination, l'attirait. Et donc, quelque part, ça a toujours paru très naturel pour moi d'introduire des éléments appartenant à l'étrange dans ce qu'on pourrait définir comme le roman policier classique et de faire quelque chose qui, quelque part, soit un peu en équilibre entre les deux. Et je pense que Les bons voisins est ma première tentative de faire ça avec une longueur de roman.
Oui, puisque là, il y a véritablement une enquête criminelle a posteriori, puisqu'il y a quand même 20 ans d'écart entre le crime et l'enquête menée. Donc, vous êtes dans cet univers qui est celui, je dirais, de l'investigation criminelle, Agatha Christie et autres. Quel rapport vous avez avec les grands classiques de l'enquête policière, littéraire anglaise, Agatha Christie et autres ?
They're books one grows up with.
Alors, évidemment, c'est des livres avec lesquels on grandit. Je pense que la manière dont j'ai découvert Agatha Christie, c'est à travers le film des années 70, Meurtre sur l'Orient Express, avec Peter Ustinov. Et c'est un film tout à fait formidable, qui, d'une certaine manière, réunit pas seulement l'état d'Agatha Christie, l'esprit d'Agatha Christie, et puis aussi cette histoire, en fait, des films qu'on faisait dans les années 70. Et j'ai toujours eu un rapport très particulier avec cette époque de la cinématographie. Et évidemment, ça rend curieux sur les livres. Et j'ai toujours eu, en fait, un véritable amour et respect pour le travail d'Agatha Christie. Elle a souvent été critiquée pour l'épaisseur, en fait, de caractérisation de ses personnages. Mais je crois qu'en fait, les gens qui la critiquent n'ont pas vraiment fait attention à son travail. Pour moi, c'est une écrivaine de grand talent à tous les niveaux. Et je la lis encore régulièrement et j'aime beaucoup son travail. Et je suis fascinée par la manière dont elle fait bouger, en fait, ce qu'on appelle, en fait, le club des enquêteurs, qui est quelque chose qui a existé avant le roman policier proprement dit. Et ça m'intéresse toujours aussi Dorothy Halsell et c'est une autre autrice qui s'appelle Marjorie, qui sont vraiment des classiques du crime. Et c'est des femmes qui s'intéressaient aux crimes qui se produisaient en fait à l'époque, et c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement.
Hubert Prolongeau.
Il y a quelque chose que j'ai aimé dans votre livre et qui en même temps m'a déçu, comme une espèce de soumission aux règles du roman noir, c'est que vous donnez à la fin la résolution de l'énigme. Or, tout le roman, et c'est ce qui en fait le grand charme à mes yeux, est que c'est un roman où les personnages sont dans le flou. Ils sont dans le flou quant à leur quête, dans le flou quant à leur relation amoureuse, dans le flou quant à leur avenir professionnel. Et aux trois quarts du livre, je me suis dit, ce qui va être formidable, c'est que justement, on va rester dans ce flou. Tous les personnages ont évolué, se sont rencontrés, se sont croisés, et on ne saura pas ce qui s'est passé. Et là, dans le dernier quart, au terme d'une péripétie que je trouve un petit peu tirée par les cheveux, vous trouvez miraculeusement, vos personnages trouvent miraculeusement l'indice qui donne la solution. Alors, est-ce que c'est moi qui me trompe sur l'analyse du roman au début, ou est-ce que vous avez cédé à une facilité en donnant la solution? Est-ce que vous n'avez pas à un moment pensé terminer votre livre sans que l'on sache jamais si John Craigie était coupable ou non?
It's a very interesting question to me because
alors, ça, c'est une question très intéressante pour moi parce que c'est une décision très délibérée, en fait. Dans les romans policiers traditionnels, ce qui attire les lecteurs, c'est qu'à la fin du livre, ils auront la résolution. Hein. Et voilà, c'est quelque chose qui... lit tout le roman. Et je suis connue pour ne pas faire ça dans mes propres fictions, pour laisser des ambiguïtés, des fins ouvertes. Hein. Et pour moi, les bons voisins font les deux choses, en fait. Le lecteur de romans policiers classiques va lire ce livre comme un livre vraiment presque de littérature d'enquête. Hein, ils vont évoluer à travers le livre et ils vont arriver à une conclusion satisfaisante sur qui a commis ce crime. Et cependant, les gens qui ont envie de s'intéresser davantage au monde de l'imaginaire, des fées, du folklore de l'Écosse, du monde intérieur de Johnny vont aussi en fait arriver à la fin du livre en pensant que il y a toujours en fait une part d'étrange. Hein. Est-ce que Johnny était vraiment complètement immergé dans un monde surnaturel ou est-ce que il souffrait d'une maladie mentale? Hein, c'est au lecteur de décider. Et ça aussi, c'était une décision délibérée, tout aussi délibérée que de révéler, en fait, la clé du mystère en espérant que les choses allaient fonctionner aux deux niveaux.
Oui, c'est effectivement un jeu comme ça avec le polar et la disparition. La disparition est quelque chose de très important dans vos livres, dans Conquest, dans La Fracture, ici. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la disparition? Est-ce que ça participe d'une peur que vous avez, que le monde ne soit pas stable, que autour de vous il change? Est-ce que c'est un pur artifice de fiction? Pourquoi cette omniprésence de la disparition dans vos livres?
Yes, it's a constant theme and people have often said what is...
C'est un thème qui revient toujours, hein, et les gens ont souvent dit que ce leitmotiv de la disparition est quelque chose qu'on retrouve dans tous mes livres et dans mon univers. C'est effectivement une fois de plus un élément délibéré parce que les lecteurs aiment le mystère. Ils adorent l'idée de quelqu'un qui a disparu. Si cette personne revient, sera-t-elle la même personne qu'au moment où elle a disparu. Tout ça est très intriguant à la fois pour les lecteurs, mais aussi pour l'écrivain. Hein, parce que je ne suis pas non plus totalement certaine des réponses que je donne, mais c'est aussi la disparition, quelque chose de très personnel pour moi, qui a à voir avec le temps, avec le passage du temps, et la manière dont les gens peuvent aussi se déplacer vers le passé, même s'ils continuent à vivre dans le présent, en fait, ils portent souvent des chaînes qui sont liées au passé. C'est quelque chose dont j'ai été très consciente, en fait, dès l'enfance, hein, comment on est obligé de se, quelquefois, parce qu'on bouge, réadapter à des amis, à une nouvelle ville, mais tout en ayant gardé un lien avec le passé. Et c'est vraiment quelque chose qui, quelque part, aura toujours des effets sur nous. Et ça, c'est très vrai aussi pour les artistes, et particulièrement lorsque leur vie continue d'avancer.
Et Nina Allan, ce roman, Les bons voisins, se passe largement dans une île. À l'île de Bute, donc près de Glasgow, où vous-même vous résidez, et vous avez campé cette histoire dans cette île. Cette île qui a une caractéristique, c'est d'être très proche, tout proche, d'une grande métropole urbaine. Alors, il y a une tradition littéraire insulaire, bien évidemment, de l'île, la littérature anglaise. On va citer pour le plaisir l'île au trésor de Stevenson ou l'île du docteur Moreau de Wells, mais ce sont des îles au loin. Ce sont des îles lointaines auxquelles on arrive presque par hasard ou à la suite de décryptage de plans assez compliqués. Là, c'est à la fois une île et en même temps presque comme un quartier de Glasgow. Il y a une sorte de proximité qui fait que l'effet de l'île au loin est un peu annulé. C'est un peu comme une sorte de dépendance de la ville. Alors, j'aimerais savoir, vous nous parliez justement du fait de ce statut particulier comme décor romanesque d'une île qui n'en est peut-être pas totalement une, puisque le ferry toute la journée crée le lien et que bon, on va en ville sans difficulté. C'est pas l'île oubliée, c'est pas l'île enchantée, c'est une sorte de lieu à part, mais en même temps intégré.
It's a very interesting question, sort of the proximity.
Alors, cette question de la proximité entre l'île de Bute et Glasgow est très intéressante, et c'est pour ça que mon mari, Christopher Priest, et moi avions déménagé dans cette île il y a environ 10 ans. On voulait explorer, en fait, un monde plus large et plus sauvage que celui de Glasgow. Et Bute, en même temps, nous offrait en fait un endroit très inspirant où travailler. Cette île a eu pratiquement immédiatement des effets sur nos écritures respectives. Et j'ai commencé donc à écrire Les bons voisins dès mon installation à Bute. Et tous les livres que j'ai écrits sont en fait une réponse au lieu où je les ai écrits. Et donc, l'une des interprétations des bons voisins, c'est une exploration d'un nouveau paysage où je me suis retrouvée à vivre. Mais c'est aussi le cadre parfait pour un roman policier. Et on revient à Agatha Christie, hein. Elle a utilisé des îles parce que ce sont des endroits dont on ne peut pas partir. Ça veut dire que le suspect est alors pratiquement enfermé dans une pièce. Et donc, du coup, la question dans le roman, c'est qui essayait de quitter l'île. S'il n'essayait pas de la quitter, pourquoi, hein? Et c'est aussi quelque chose qui a à voir avec la mécanique de l'histoire, et c'est très utile et très intéressant. Et je dirais que ce point, c'est l'enchantement qui existe dans l'île et qui a la proximité avec le continent, mais lorsque la journée se termine et que le service de ferry est interrompu, alors là, effectivement, tout ce qui appartient à l'île y reste, que ce soit le folklore, que ce soit les relations entre les gens qui vivent sur l'île ou les visiteurs qui s'y retrouvent. Hein. Et quelque part, c'est comme une scène où tout peut arriver. Et ça a toujours été quelque chose, je crois, de très inspirant, les îles, pour cette raison-là.
Alors, Nina Allan, plusieurs dimensions dans ce roman, Les bons voisins. L'une d'elles, évidemment, centrale, est la question, vous en avez parlé, de l'enchantement, du folklore fantastique écossais, et notamment de la question du petit peuple, travaillé jadis par le romancier Arthur Macken. J'aimerais qu'on parle un peu de cet aspect, puisque c'est un des frontières indécises autour de la figure de John Craigie, dont on parlait. Est-ce qu'il est en lien avec l'univers du petit peuple, ces fameux bons voisins dont on parle, puisque ce ne sont pas des voisins anodins, ce sont des voisins fantastiques et surnaturel. Quelle est un petit peu justement comment avez-vous travaillé cette présence du folklore fantastique écossais dans un récit d'enquête criminelle?
It's, I think I think the idea of fairies, of the little people,
alors, je pense que l'idée des fées et des petites gens est quelque chose qui est très attrayant parce que c'est quelque chose avec lequel on a tous grandi. Hein. Et effectivement, on se retrouve en fait avec un personnage où un des personnages, Alice, a une grand-mère en fait qui était une scientifique qui a voyagé, mais elle venait du Donegal et donc elle avait gardé en fait cet attachement à sa terre natale et elle en avait parlé à sa petite fille comme quelque chose de très sérieux et dont on devait se soucier. Et je pense que tous les gens ont quelque part une version assez similaire de ce folklore, hein, c'est-à-dire ce lien à toutes les personnes qui vivaient là avant que nous n'y vivions. Et du tout, quelle est l'imagination qui peut exister sur des choses qui se passent bien ou qui se passent mal? Et c'est quelque chose, les gens vont dire, je l'ai senti ou on m'a raconté cette histoire. Et particulièrement dans les terres celtes, comme l'Écosse ou l'Irlande, hein, sont des histoires qui sont encore là, présentes, latentes. Hein, et on a en fait c'est aussi en fait des histoires en fait qui permettent de conserver des petits édifices, des arbres particuliers là où ces petits voisins, ces petites gens se tenaient. Évidemment, on ne peut pas prouver, et en ce sens, c'est quelque chose qui est complètement à l'opposé des romans policiers qui fonctionnent sur le vrai et sur les preuves. Hein. Mais là, dans ce domaine des faits, on est sur quelque chose de totalement subjectif qui fonctionne sur le sentiment et peut-être des choses qui ne seront jamais révélées à personne. Donc, ça introduit en fait un élément qui s'oppose à la question de la certitude qui est un élément constitutif des romans policiers.
Hubert Prolongeau.
Vous avez évoqué votre mari, Christopher Priest, grand écrivain de science-fiction qui est décédé il y a un peu plus d'un an, que vous l'avez rencontré lors d'un atelier d'écriture en lui apportant un texte et donc votre relation a démarré autour de l'écriture. Comment est-ce qu'on vit avec un autre écrivain? Est-ce que vos livres s'influençaient les uns les autres? Est-ce que vous preniez conseil? Et aujourd'hui que vous vous retrouvez seul, est-ce que votre écriture en est transformée?
Yes, it's the deepest and most interesting of questions.
Voilà, c'est une question très profonde et intéressante. Christopher Priest et moi avions eu beaucoup de chance puisque nous aimions vivre de la même manière. Nous vivions pour notre travail, nous parlions constamment de ce travail ensemble. On parlait de livres d'autres écrivains. Je crois que ce qui nous a attirés l'un vers l'autre, c'était comme même si nous étions des écrivains différents, nous étions intéressés par des thèmes similaires. Et je l'ai toujours décrit en disant que nous regardions le monde à travers de la même fenêtre. Et nous étions le premier lecteur l'un de l'autre. Et je ne crois pas qu'il s'agisse d'influence, peut-être plutôt d'inspiration. J'avais lu en fait les romans de Christopher Priest bien avant que nous nous rencontrions, quand j'avais une vingtaine d'années. J'adorais son travail. Il donnait pour moi une véritable vision au travail de science-fiction que je n'avais jamais rencontré chez d'autres écrivains. Il semblait briser toutes les barrières de ce genre-là et pour pour moi, il a vraiment ouvert en fait des voies pour ma pensée de mon écriture personnelle. Nous avions des conversations incessantes et c'est depuis son trépas, la chose la plus dure, c'est de ne plus avoir la possibilité de courir vers lui à chaque fois qu'une idée me traverse la tête. Il est constamment dans mon cœur et dans mon esprit et je ne pense pas que ceci changera jamais. Je trouve très rassurant et quelque chose qui me donne de la force de penser que s'il franchissait la porte aujourd'hui, il me trouverait dans le même état que celui dans lequel il m'a laissé, avec les mêmes questions qui me viennent aux lèvres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, quelque part, habite mon écriture et mon rapport à l'écriture. Hein. Et je crois que nous rions beaucoup de nos œuvres respectives et c'est très difficile de ne plus l'avoir à mes côtés, mais son travail m'accompagne toujours. Et je dirais que tout ce pour quoi il vivait est toujours d'une certaine manière présent à mes côtés.
Merci Lina Allan pour cette émouvante évocation de Christopher Priest, auteur que nous aimons, et que nous aimions et que nous aimons toujours énormément à Mauvais Genre. Autre figure de créateur qui est cité dans ce roman, Les Bons Voisins, qui paraît chez Tristram, c'est un peintre, Richard Dadd. Alors Richard Dadd, on le connaît sans le connaître, puisque ses œuvres sont célèbres, ses représentations du monde des fées, de la féerie sont célèbres, donc on peut les voir dans des albums, même en couverture de disques. La Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn, j'imagine, a dû être fréquemment illustré par Richard Dadd. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce personnage qui apparaît, qui est plus qu'une citation, qui est justement une sorte de hantise dans votre roman?
I became obsessed with Richard Dadd from the moment I first saw his great painting, The Fairy Fellow's Masterstroke.
Quand j'ai vu cette peinture, en fait, très célèbre à la Tête, je l'ai vue, en fait, quand j'étais adolescente, et à ce moment-là, j'ai commencé à être obsédée par Richard Dadd. C'est une œuvre extraordinaire, parce que même si, à l'ère victorienne, la peinture de fées était très populaire, les peintures de Richard Dadd étaient très différentes. Il y avait, chez beaucoup de peintres, une idéalisation de cette peinture des fées qui était liée à cette féerie qu'on retrouvait chez Shakespeare. C'était des créatures très lumineuses qui avaient des ailes qui étaient de manière surnaturelle très belles et qui avaient une influence significative sur le monde autour d'elles. Mais les fées de Richard Dadd étaient différentes. C'était pratiquement des petites gens, des gens en colère, des gens qui effectivement étaient en colère et en voulaient aux humains de rentrer dans leur propre monde. Hein. Et ça, c'était très différent de toutes les peintures en fait de fées que j'avais vues auparavant et que j'ai pu voir après et qui ont été produites. Hein. Dadd était un prodige. C'était le plus jeune étudiant jamais admis à la Royal Academy et Il a produit depuis son adolescence, en fait, des œuvres qui étaient plus en rapport avec les canons victoriens, mais il a un peu plus tard été invité comme peintre officiel par un aristocrate lors d'un voyage dans les terres anciennes au Moyen-Orient. Et Richard Dab était très heureux, en fait, d'avoir été invité, mais durant, en fait, les longs mois du voyage, il n'était pas habitué au climat et il n'a pas écouté les conseils qu'on lui donnait de se mettre à l'abri de la chaleur. Il travaillait constamment et plus le temps avançait, ses amis ont remarqué des changements. Il a commencé à parler d'Osiris, la déesse égyptienne, comme l'obsédant complètement. Et finalement, il a eu un breakdown et il est rentré en Angleterre. Il a été rapatrié où il vivait avec son père. Et tout le monde pensait, en fait, qu'il allait se rétablir en rentrant sur sa terre natale. Mais malheureusement, ses hallucinations ne l'ont jamais quitté. Et donc, il va finir par assassiner son père en plein jour dans un parc. Il n'a jamais été jugé. Il a juste parlé d'une manifestation du diable qui lui avait demandé de supprimer son père. C'était quelque chose de terrible parce que il adorait son père et quelque part il s'est blessé deux fois et il a passé en fait le reste de sa vie dans un asile de fous dans l'hôpital de Bethlehem et c'est là qu'il a créé en fait ses œuvres les plus importantes dont ce tableau hein, très très célèbre qui est à la tête voilà et dont on retrouve le titre dans le roman. Et voilà, je crois que je voulais écrire hein, sur Richard Dab dès que j'ai vu l'une de ses peintures.
Hubert Prolongeau.
Il y a une autre référence, me semble-t-il, dans votre livre, c'est Nabokov. Vous avez fait votre thèse sur Nabokov. Plusieurs des thèmes de votre livre, par exemple cette idée que le temps change tout et que rien n'est plus jamais comme il était avant, cette idée de fuite, vos personnages fuient beaucoup, Alice, Kat sont en train de chercher autre chose. Est-ce qu'il y a une... D'abord, pouvez-vous nous expliquer la prégnance de ces thèmes dans votre œuvre ? Et y a-t-il une influence de Nabokov ou est-ce que c'était un sujet de thèse comme ça aurait pu en être un autre ?
I think it has everything to do with Nabokov.
Alors, je pense que ça a tout à voir avec Nabokov. Hein. Il a, on le sait, décrit, pardon, son rapport avec le temps comme une espèce de phobie. Et je m'y suis reconnue. Hein. Depuis l'âge de 7 ans, c'est une des choses que j'ai en commun avec Nabokov. Hein. Cette peur du temps qui passe, je l'ai ressenti toute ma vie. Et c'est ce qui m'a attirée vers l'écriture de Nabokov. Cette espèce de... la grande souffrance de Nabokov, c'était d'avoir été éloigné de sa Russie natale, où il n'est jamais retourné après la Révolution. Hein, et d'une certaine manière, il a recréé la Russie comme une terre d'imaginaire, en fait, une terre de fées, mais d'une manière bizarre. Mais il savait qu'il ne reviendrait jamais dans sa Russie natale en raison des changements qui étaient arrivés avec la Révolution. Quelque part, sa Russie avait été supprimée. Et je pense que ceci est vrai pour tous les êtres humains, avec une ampleur moindre. quelque part, le temps de notre enfance meurt quand on entre dans l'âge adulte, hein, et c'est quelque chose où on ne peut pas retourner. Et je pense que, d'une certaine manière, c'est la quête que beaucoup de mes personnages expérimentent. Ils arrivent à un moment de conflit ou de crise dans leur vie, et pour résoudre ce conflit, ils essaient de revenir à un temps antérieur à ce conflit. Et bien sûr, on ne peut pas dépasser en fait un conflit. On est obligé de le traverser. Hein? Et c'est ce qui est l'histoire des bons voisins. Caff doit retourner dans cette terre de conflit qu'a été l'île pour, évidemment, cette terre en fait de fées, hein, où elle va pouvoir aussi, c'est le cas d'Alice, retourner dans cette île pour se retrouver en lien avec sa grand-mère, pour revenir vers la structure des mathématiques, hein, qui était la profession de sa grand-mère. Et je pense que cette peur est quelque chose qui est central dans mon travail et je vais continuer à aimer les romans de Nabokov et à les célébrer, et ils sont aussi importants pour moi, ces romans, que mes tout débuts dans la lecture, en fait.
Évidemment, dernière question, Nina Allan, c'est sur la question du lieu qui est déterminant dans ce roman. L'île est déjà un lieu clos. Même si c'est une île proche de la Terre, c'est quand même un lieu clos. L'appartement, qui est le lieu du crime, on l'a enquêté aussi, est un endroit hanté, qui est un lieu fermé, dans lequel on pénètre un peu de manière clandestine. L'appartement d'Alice aussi est un lieu où on peut faire des investigations. Et puis alors, comme, je dirais, apocalypse de cette question du lieu et de la fermeture, il y a la maison de poupée, parce que John Craigie, qui est un homme violent, mutique, monobloc, et néanmoins un menuisier, un ébéniste génial qui conçoit une maison de poupée. Alors là, qui est vraiment le lieu clos par excellence, qu'on domine, qu'on maîtrise, et en même temps, qui est un lieu inquiétant, angoissant. J'aimerais que vous nous parliez un peu de cette idée du lieu, de l'angoisse que peut générer le lieu intime, qui est là pour rassurer, qui en même temps est un lieu d'angoisse et de perdition.
I think...
Je dirais, une fois de plus, que le motif de la maison de poupée, le thème de la maison de poupée, est un thème sur lequel je suis revenue plusieurs fois. Il hein, y a le créateur de poupées. Et ces mondes miniatures que nous créons pour nous, comme effectivement un lieu qui nous rassure, mais ce sont aussi des lieux qui nous aliènent. On ne peut pas les habiter. Hein. Ils nous sont fermés tout en étant proches. Et du coup, on essaye de les pénétrer, mais on n'y arrive pas. D'une certaine manière, ce sont des explorations métaphoriques de ce que peut être l'enquête ou l'observation de ce qu'on peut ressentir avec un espace qu'on habite, hein. C'est-à-dire que c'est un lieu étrange, c'est un lieu qui est à l'extérieur de nous, qui nous demeure à jamais fermé, mais que l'on peut y faire. Et donc, c'est des lieux que l'on voit, mais qu'on ne peut pas pénétrer. Donc, il y a un auteur, en fait, qui a écrit cette pièce, un livre qui s'appelle La pièce intérieure, et ça parle, en fait, ce livre, d'une pièce où on ne peut pas pénétrer, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Et il y a une petite référence, en fait, hein, à ce livre de cet auteur, dans Les bons voisins. Et c'est un auteur qui a été très important pour moi. J'aime cette manière dont il peut en fait faire du connu et du vu quelque chose qui va revenir à notre centre essentiel. Et j'adore son travail pour cette raison. Would you mind telling the name of this writer again?
Robert Aickman.
Voilà, l'auteur s'appelle Robert Aickman.
Hubert Prolongeau.
Vous avez écrit, la dernière, je crois, date de 2019, un certain nombre de nouvelles. Depuis 2019, sauf erreur de ma part, nous n'avons plus eu que des romans. Est-ce que vous abandonnez ce genre ou non ?
It's very much not intentional that I haven't written any short fiction.
C'est pas vraiment intentionnel de ne pas avoir écrit de fiction plus courte. C'est une question de temps. J'ai travaillé sur ces fictions plus longues. Et je dirais que les nouvelles me prennent beaucoup de temps. Et j'ai besoin de n'avoir aucune interruption pour penser à ces nouvelles. Il me faut beaucoup de temps pour arriver à les formuler. Et donc, j'ai tout simplement pas été capable de dégager du temps avec ces projets plus longs et puis également, tout ce qui m'est arrivé, en fait, dans la vie ces quatre dernières années. C'est plus par hasard, on va dire. Hein. J'aime écrire des nouvelles et plutôt, j'ai écrit, en fait, une nouvelle assez longue, hein, ce qu'on appelle les novellas. Court roman va sortir au début de l'année prochaine et j'ai quelque chose qui ressemble plus à Stardust et à Complications. Hein. C'est un format que j'aime beaucoup, alors ne jamais dire jamais, hein. Je continue à écrire des formes courtes.
Ultime question, cette fois, Nina Allan, de la part de Laurent Polleret, notre réalisateur. Votre héroïne, Kate, travaille chez un disquaire à Glasgow. Vous-même, vous avez été acheteuse, vous avez travaillé dans l'univers du disque. Quel rapport vous avez aujourd'hui avec cet univers de la musique, d'abord, et puis de l'objet disque, vinyle ou pas?
Oh, I mean, everything in The Good Neighbors about the record shop is absolutely drawn from life.
Tout ce qui se retrouve dans Les Bons Voisins sur le magasin de disques vient du réel. J'ai eu la chance de travailler dans un magasin de musique, donc effectivement, je suis un mélange en tant que disquaire entre Kat et Steve, qui est le propriétaire du magasin de disques dans le livre. Et la musique est toujours très présente dans ma vie, en fait. Vous avez lu donc Conquest, hein, mon premier roman, ça s'inspire beaucoup de la musique. J'ai jamais été passionnée par les vinyles en tant que tel. Des amis en fait le sont, hein, mais j'ai tendance à avoir toute ma musique sur un disque dur aujourd'hui. Mais c'est une partie très profonde de ma vie et j'ai donc relu Les Bons Voisins récemment et effectivement relire tout ce que je dis dans le roman sur le magasin de disques m'a rendu profondément nostalgique.
Merci Nina Allan de nous avoir accordé cet entretien. Merci à Pascal Fougère de l'avoir traduit. Je rappelle donc ce roman Les Bons Voisins de Nina Allan, ce sont aux éditions Tristram.
Would I be awakened where the wrong side renders?
But I did not.
Would I be dangling towards demise?
But I did not.
Forgetting about the innocent splendors?
But I did not.
And rage blinding my eyes?
But I did not.
Could have slouched into deception? Just made it make more sense,
but I did not
accept the devilish invitation,
but I did not.
Should I just sit upon this fence? No, I won't let go. Taking in the
Mauvais genre, François Angelier.
Mauvais genre, comblé par cet entretien avec Nina Allan, qui était traduit par Pascal Fougère et que l'on doit à la fidélité et à la célérité des éditions Tristram. Alors Tristram, c'est Nina Allan, bien évidemment, mais ça n'est pas que Nina Allan. Hubert, vous tenez braquer le projecteur sur d'autres publications.
Tout à fait, c'est une de ces petites maisons qui font un travail quand même assez formidable, envers et contre tous. Je me souviens dans la masse, le terme est excessif, malgré tout, assez nombreuses productions, de la réédition de Fat City, formidable roman qui avait inspiré un de ses plus beaux films à John Huston. Je me souviens de l'effort qu'ils font pour rééditer l'œuvre de Pierre Bourjade. Oui. Et récemment, c'est Le Mirage qui est sorti et qui est un roman qui évoque de façon assez polyphonique l'année 1956 et qui est passionnant. Et alors, du coup, s'il m'écoute, fébrile, je l'espère, je voudrais qu'il termine la publication du journal de Mark Twain, qui était quelque chose quand même d'absolument colossal. Il y a déjà eu 2 tomes énormes et le 3e est normalement sous presse, ou du moins devrait arriver. Et c'est une espèce de plongée assez brouillonne, mais absolument passionnante, dans la vie de Twain et dans l'Amérique de ce temps. Et c'est partie de ces livres monstres, mais qu'on a envie d'avoir, de lire, qui sont un peu mythiques et qu'en fait, sont pas suffisamment diffusés. Donc bravo à Tristram pour ça et merci de nous envoyer la suite dès que possible.
Dès que possible. De mon côté, je salue quand même l'éditeur des nouvelles complètes de Ballard, qui sont parus en 3 volumes aux éditions Tristram. Et puis surtout, Stevenson, nouvelle traduction de L'île au trésor. Hunter Thompson, qui doit pas tout, mais beaucoup à Tristram, et puis William Volman, parmi les titans et les aérolithes sauvages, et puis Arnaud Schmitt aussi. Enfin, on va pas faire le dépouillement intégral du catalogue Tristram.
Mais c'est vrai que ça fait partie de ces
marques.
Mais
c'est une maison qu'on vous recommande, que vous soyez amateur de la littérature la plus effrénée et de la littérature de genre la plus radicale, les éditions Tristram. N'essayez pas d'en savoir plus, c'est un vieux truc exhumé par Laurent Polleret que l'on remercie. Avant de vous donner la parole, Hubert Prenongeau, pour évoquer le dernier livre et la personnalité de l'auteur Patrice Guirao, 2 choses. La première, demain à France Culture, demain dimanche après-midi, vous pourrez écouter Toute une vie, puisque c'est Moïse de Camondo, mécène, vie d'une dynastie et d'une famille au déclin et au destin, tragique. Et c'est une émission de Laurent Polleret et de Céline Duchesnay. Et puis, je voulais quand même vous donner le palmarès du Prix Sade. Il semblerait que le Prix Sade écoute régulièrement Mauvais genre. Et à quoi est-ce que je vois ceci? C'est la liste des lauréates et des lauréats. Agnès Michaud, Huysmans Vivant, qui a été notre invité, Le Cherche Midi, Prix Sade, toute catégorie. Esther Teilhard pour Carne chez Prouvaire, Prix Sade du premier roman, elle est membre de l'équipe. Il y a également à signaler que nous avons reçu Mondo Canet, confrère Mondo chez Potemkin, donc c'est Maxime Lachaud qui représente la maison, et puis chroniqué par Stéphane Duménildo, La tendresse des loups, Ulysse Lomel, ce sont les 2 prix Sade. DVD, sinon, Raphaël Nil, Alice Zeniter, Hollywood Nightmares, c'est le Prix Sade photo, Octavie Del elle vaut le prix Sade BD pour Fièvre. Valérie Minton, L'album du diable et Tentation de Félicien Robs du mauvais genre pur jus, Sade beau livre. Andrea Laure prend la forme d'une fille mortelle aux éditions La Contrée en littérature étrangère. Et on termine avec Griselda Gambaro, le prix Sade du livre censuré. Comme vous voyez, ce jury et ce prix savent écouter et se nourrir aux meilleures sources. Alors, on passe maintenant avec vous, Hubert Prolongeau, à Patrice Guirao. Alors, Patrick, vous m'avez souvent dit qu'il fallait l'inviter, mais le problème, c'est qu'il est
assez loin.
Il n'habite pas à Chatou.
Voilà, puisque Patrice Guirao est l'inventeur et sans doute l'unique représentant du polar tahitien. Il est né en Algérie et il vit depuis des années à Tahiti, dans une maison absolument magnifique, à flanc de colline, avec une vue sur le lagon sublime. Patrice Guirao, même si quelque chose me dit qu'il ne fait pas partie forcément des playlists qu'écoute Laurent Polleret à longueur de temps. Vous l'avez sans doute déjà...
Vous savez, il est capable de tout.
C'est vrai, c'est vrai que c'est quelqu'un d'extrêmement polyvalent. Mais vous l'avez sans doute déjà fredonné, car avant de se reconvertir dans le polar, Patrice Guirao a écrit des chansons pour de très nombreux et de très différents artistes, de Johnny Hallyday à Isabelle Boulay, de Art Mango, son beau-frère, à Sacha Distel ou Jennifer. Donc c'est très très éclectique. Il a également signé les livrets de comédie musicale à grand succès, les 10 commandements, Le Roi Soleil, Mozart, l'opéra rock, ou la dernière, Bernadette de Lourdes. Alors tout ça, vous direz...
Ça j'exige un enregistrement. Monsieur Laurent nous diffusera ça.
Je vous promets de vous procurer
un CD.
Tout ça n'est pas très mauvais genre, vous allez me dire, et vous aurez quand même raison. Mais, car il y a un mais, Patrice Guirao est passé depuis une quinzaine d'années à l'écriture de romans noirs, et avec un vrai bonheur dans deux styles un petit peu différents. Il y a deux séries qui toutes les deux se passent dans ce Tahiti qu'il connaît extrêmement bien. La première met en scène un détective tahitien, le premier du genre, qui s'appelle Al Dorsey. Il y a une série de 6, Crois-le, Laoli, Si tu nous regardes, et Aujourd'hui, quand on s'aime, et qui campe un personnage de privé qui ne se prend pas au sérieux. Ce sont des romans plutôt humoristiques, mais chemin faisant. Malgré tout, Dorsey et Guirao nous plongent dans les dessous de la société tahitienne et l'envers du décor des vahinés et des colliers de fleurs. C'est à la fois vivant, instructif, attachant. Le dernier volume, donc Quand on s'aime, le lance sur les traces de trafiquants de fentanyl. On sait les ravages qu'a fait cette drogue. L'impunité relative dont a bénéficié le méprisable... pharmacien qui les a diffusés et qui a réussi à ne pas payer ses crimes, et la façon dont également ce produit sert maintenant d'argument massu à Donald Trump pour aller investir l'Amérique du Sud et bombarder des bateaux qui sont dans des eaux autres que celles des États-Unis. Le Al Dorsey a donné naissance aussi à une série télé, là je le dis uniquement pour mention, car elle est extrêmement médiocre, et je me souviens, étant plein d'une conscience professionnelle sans faille, allant rencontrer Patrice Guirao à Tahiti, de mettre fadé les 3 épisodes de la série Al Dorsey dans l'avion. Le voyage est déjà très long, mais avec ça, il a été interminable. Mais les livres, eux, en revanche, méritent vraiment le détour. La deuxième série, Lili Stereia, est beaucoup plus sombre. Les héros en sont un journaliste et une photographe. Ils vont beaucoup plus loin qu'Al Dorsey, avec un ton différent, un ton plus indignant, un ton plus sombre, dans la dénonciation des trafics et corruptions assez nombreux dans les îles. Et ils le font avec une violence et un sérieux beaucoup plus marqué. C'est une trilogie, cette fois simplement, mais qui est très noire, mais qui est un pendant assez passionnant à Al Dorsey. C'est intéressant de voir comment le même auteur, un peu à la Westlake, peut passer d'un univers plutôt amusé à un univers beaucoup plus noir. Mais la vraie actualité de Guirao, c'est un roman qui s'appelle Trois noyaux d'abricot, un roman assez bouleversant, très différent des précédents, et qui raconte une enfance, la sienne en partie, suppose-t-on, pendant la guerre d'Algérie. Derrière le destin d'un enfant nommé Sauveur, qui a 8 ans, et vit à Oran, c'est celui de tous les enfants victimes de la guerre qui se profile. Guirao mesure aussi bien les moments de bonheur que l'irréductible joie de vivre de l'enfance arrive à recréer un peu partout, aussi bien que les traces terribles que l'épreuve laissera chez l'adulte que deviendra Sauveur. On peut pas en faire la référence de tout, mais à l'heure où les bombes vont peut-être arrêter de pleuvoir sur les enfants de Gaza, il est bon quand même de rappeler les traces que laissera tout ça. Les les Halles d'Orsay et les Trois Noyaux d'Abricot sont publiés, puisqu'on rend hommage à des maisons d'édition aussi, par une maison assez remarquable qui... J'allais dire sévit, mais c'est pas le mot, qui s'exerce en Polynésie, qui s'appelle Au Vent des Îles, et qui voilà, a publié le meilleur de la littérature locale, et quand je dis locale, ça s'étend à tout le Pacifique, puisque... ils ont publié l'auteur néo-zélandais Witi Imaera, qui sort Le Pacte des Baleines actuellement, et il publie ces jours-ci le seul roman resté inédit du seul prix Nobel océanien, qui est l'Australien Patrick White, qui est un roman qui s'appelle L'Arbre de l'Homme. Je n'en ai lu que la moitié, mais c'est absolument remarquable, une manière d'écrire extrêmement étonnante. Et quand
j'imagine que la maison Au Vent des Îles a un site régulièrement mis à jour et qu'on peut se procurer tous les ouvrages Hubert
complètement
que vous venez d'évoquer,
qui ont été unifiés esthétiquement par une charte graphique très jolie.
Patrice Guirao, merci donc pour la présentation de cet univers. Puis on est toujours très intéressé par justement ce rayonnement noir du polar, bien au-delà de la métropole, que ce soit, bien ma foi, en Martinique ou dans les îles, en Polynésie, on est toujours très très intéressé. Alors de mon côté, j'ai deux nouveautés qu'il ne va pas falloir rater quand on est amateur de fantastique, d'horreur, d'humour noir, de macabre grinçant. Ce sont deux publications d'Ambrose Bierce. Alors Ambrose Bierce est un classique du fantastique et de l'humour noir américain et paraissent coup sur coup, si j'ose dire, à l'Arbre Vengeur, dans une très belle présentation reliée, cartonnée avec des illustrations, très belle maquette et une préface un peu oubliée de Fernand Cuvelier. C'est pas une préface récente, mais c'est un texte assez percutant et très précis. Donc Ambrose Bierce, le coup de grâce aux éditions L'Arbre Vengeur, et puis aux éditions Finitude, alors là, chapeau, Les Délices du Démon, c'est un Bierce inédit qui a été publié originellement à Londres, à l'époque où Bierce voulait tenter une carrière européenne, et qui présente la quintessence véritablement de ce personnage. Alors, quelques précisions sur Ambrose Bierce. Il est né en 1842 dans une ferme américaine où il n'a pas tardé à s'ennuyer, à trouver lui aussi le temps très 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 long, et il serait mort, point d'interrogation, en 1914, alors que sévissait la guerre civile mexicaine et qu'il s'était engagé dans les troupes de Pancho Villa. Et entre-temps, eh bien, la vie d'Ambrose Bierce est tout à fait étonnante, puisque souhaitant fuir la ferme et vivre la grande aventure, il rentre dans l'armée, comme beaucoup d'auteurs, d'acteurs, de cinéastes américains. Et évidemment, en 1861, c'est la guerre de sécession qu'il fait au premier rang. Et il participera aux bagarres et aux batailles comme celle de Shiloh, parmi les plus sauvages, les plus dévastatrices du conflit. Et en sortira, comme on est sorti de Verdun, comme on est sorti des camps, on y en sera totalement traumatisé, avec une vision du monde qui est une vision totalement pessimiste, nihiliste, noire, absolument désabusée. J'ai presque envie de dire célinienne, mais l'adjectif est un peu facile. Enfin, une vision totalement désespérée. Et il publiera... Évidemment, se mettant à devenir journaliste, il publiera des contes, il publiera de fausses actualités, toujours dans un style noir, macabre, grinçant. Il deviendra un des maîtres du fantastique américain au XIXe siècle, avec des textes comme Le Dictionnaire du Diable. Il partira ensuite pour tenter une aventure anglaise, et c'est là où il publiera notamment Les Délices du Démon, que publie Finitude, et il disparaîtra normalement en 1914. On ne sait pas où, on ne sait pas comment. En tout cas, les deux publications qui sont données, Hubert, sont tout à fait remarquables. Et là, on peut apprécier le génie unique de Bierce, qui est de faire des narrations très ramassées, très brèves, très percutantes, très horrifiques, d'arriver à susciter vraiment la terreur en dehors de tous les, je dirais, les habituels classiques de l'horreur américaine.
Et on peut signaler que Bierce, du coup, nourrit aussi des fictions, puisqu'il est le héros du film de Luis Fuenzo, All Gringo, tiré d'un roman de Carlos Fuentes, et qu'on le voit apparaître en guest star dans le magnifique Les Amis de Pancho Villa de James Carlos Blake.
Merci Hubert, nous rappelons Nina Allan, Les Bons Voisins aux éditions Tristram, Ambrose Bierce, Les Délices du Démon, c'est chez Finitude, Le Coup de Grâce à l'Arbre Vengeur, et puis Patrice Guirao, c'est aux éditions Au Vent des Îles, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Timothée Hubert, Claire Poissignon, Claire-Martin Dugard, Hubert Prolongeau et François Angélier vous remercient d'avoir suivi Mauvais Genre.